entreprise à marcher.
Bon, je dois vous parler essentiellement des oppositions qui se sont manifestées dans le Parti communiste soviétique, les centralistes et démocratiques. Cette opposition s'est constituée au 9e congrès du Parti bolchevique en 1920. Elle s'est constituée sur un objet assez réduit d'ailleurs. Ses deux principaux dirigeants, Timothée Safronov et Vladimir Smirnov, se sont opposés au principe développé par Lénine depuis d'ailleurs avril 1918, à savoir le principe du commandement unique personnel dans les entreprises à la place de la gestion collective. Safronov disant d'ailleurs dans ce congrès que ce commandement unique, c'est-à-dire la direction par un individu, est possible dans les petites entreprises, mais pas dans les grosses. Et en même temps, il s'oppose à cette direction personnelle dans les comités exécutifs des soviets. Et Safronov dit par exemple, si le président d'un présidium, le comité exécutif peut diriger seul ce comité exécutif, aussi bien que ce dernier. Donc c'est une opposition réduite à deux éléments politiques, le fonctionnement des organismes du pouvoir. Lors de ce congrès, Smirnov, par exemple, dit, qui est l'un des dirigeants de l'opposition, Trotsky prétend que je suis l'adversaire de la méthode de la contrainte de la classe ouvrière et ne suis pas prêt à l'appliquer par rapport aux paysans. Et ne suis prêt à l'appliquer que par rapport aux paysans, c'est tout à fait faux. Donc vous voyez, c'est réduit à un aspect assez limité qui va prendre une importance beaucoup plus grande l'année suivante, lorsque en 21, le congrès se déroule au moment de l'insurrection de Kronstadt, pendant que continue l'insurrection paysanne à Tambov, et que depuis 7 ou 8 mois, le parti dirigeant est quasiment unique à cette époque-là, est déchiré par une discussion sur le rôle et la place des syndicats. Ce qui caractérise la position de ses opposants dans le Congrès, c'est que pour l'opposition, pour le groupe centraliste démocratique, la question des syndicats est en fait tout à fait secondaire. L'un de leurs responsables, qui s'appelle Raphaël, déclare lors de ce Congrès que, en réalité, la question syndicale vise à masquer les problèmes réels qui se pose sur le plan politique, et en conséquence de quoi le groupe ne dépose aucune motion au Congrès sur cette question-là et invite ses membres à voter comme ils veulent sur les résolutions qui sont proposées. Lors de ce Congrès, l'opposition principale, c'est l'opposition ouvrière dirigée par Chliapnikov, Medvedev qui s'élève, c'est-à-dire le dirigeant des syndicats des métallos, et des mineurs. Alors ce qui est frappant dans les positions prises par ces deux oppositions dans ce congrès et dans les mois qui précèdent, c'est que ces groupes ne posent à aucun moment, ni l'un ni l'autre, la question des privilèges qui se manifestent dans les sommets du parti. C'est d'autant plus frappant que l'année précédente, quelques mois avant le congrès, l'un des trois secrétaires du comité central, Preobrajensky, qui va être viré d'ailleurs à la fin de ce 10e congrès, a dans une circulaire dénoncé la gravité des privilèges dont disposent les dirigeants du parti et les dirigeants à divers niveaux. Dans cette circulaire, inédite que j'ai trouvée dans les archives il y a longtemps, 9 ans, et que j'ai publié dans cette revue dont j'ai apporté quelques numéros ici, Preobrajensky écrit la chose suivante. Il parle d'une émeute dans une ville, Bouzouki, pas très important, en disant si on laisse de côté les slogans kulak et antisémites du soulèvement, on trouve les mêmes exigences qui rassemblent la base du parti dans sa lutte contre ses sommets dans les conférences qui se tiennent, et il cite les slogans lancés par la base du Parti communiste contre les dirigeants. Ces slogans sont les suivants. « Abat les pseudo-communistes embourgeoisés, abat les généraux profiteurs, abat les démocrates du parti, abat la caste privilégiée des sommets. » Et après avoir cité ces slogans, Preobrajensky écrit « On peut affirmer avec audace que ces derniers slogans rencontrent l'adhésion de la majorité des adhérents de base de notre parti. Et la division de nos rangs sur cette ligne s'aggrave de jour en jour. Parmi les militants communistes des arrondissements, on prononce le mot du Kremlin avec hostilité et mépris. » Pour un secrétaire du comité central, c'est quand même assez douloureux et assez net. Et pour combattre ces privilèges, donc il continue à dénoncer, d'ailleurs pendant des paragraphes entiers, il propose huit mesures, assez radicales. Donc, en particulier, retirer toutes les voitures nominatives utilisées habituellement en majorité pour les besoins personnels des camarades et livrer ces véhicules superflus au front, qui en a vraiment grand besoin. Donc, je répète cette question qui est soulevée par un des secrétaires du comité central, qui ne sera pas réélu, elle n'est pas du tout abordée par aucun de ces deux groupes opposants. Pour donner une idée de ce que représentent ces groupes, lors du 10e congrès du parti, donc ici je répète en mars 2021 pendant la sélection de Kronstadt, lorsqu'il y a un vote sur le rapport du comité central, ce rapport est adopté à une large majorité, chacun des deux groupes opposants recueillant une cinquantaine de voix contre 540 à la majorité. À cette époque, les délégués au Congrès n'étaient pas encore désignés par le comité central, par son secrétariat. Plus près, on va toujours parler plus près. Lors de ce congrès, d'ailleurs, la majorité concentre ses attaques sur l'opposition ouvrière et non sur les DECIS, le groupe centraliste démocratique. D'ailleurs, dans l'édition des documents de ce congrès fait en 1963 à Moscou, donc sous le camarade Nikita Khrouchtchev, lequel n'a pas mis son nez dans ce bouquin, bien entendu, il n'aurait d'ailleurs pas compris grand-chose s'il se racontait. Les auteurs du volume ont fait une petite note à la fin pour caractériser les deux oppositions. Alors, l'opposition ouvrière est définie comme groupe fractionnel anti-parti, donc ça c'est clair, ce sont des ennemis dont il faut se débarrasser, et les centralistes démocratiques comme groupe oppositionnel opportuniste. Et donc la différence dans le jugement que portent les bureaucrates sur ces deux groupes est assez différente. Juste avant le congrès, d'ailleurs, les deux groupes opposants avaient fait bloc à Moscou contre la direction, c'est-à-dire contre Lénine, Trotsky, et avaient reçu 124 voix contre 154 à la liste présentée par le comité central. À Moscou, eux deux réunis à peu près 40% des militants du parti. À ce congrès, les représentants de la majorité se déchaînent surtout contre l'opposition ouvrière. Radek, par exemple, ancien communiste de gauche dont Eric Sceaux vous parlait tout à l'heure, déclare froidement « Chaque ouvrier comprendra que l'opposition ouvrière ouvre la porte à l'ennemi. En exprimant au nom de notre parti ce que la masse sans parti crie, elle ouvre la porte aux ennemis du prolétariat. » La formule est assez étonnante d'ailleurs, parce que le reproche fait à l'opposition ouvrière de Chliapnikov, Medvedev et autres, c'est d'exprimer tout haut ce que la masse des sans-partis crie tout bas. Si on peut dire, on peut crier tout bas. Enfin, après tout, pourquoi pas. Enfin, la masse des sans-partis est quand même largement majoritaire dans le pays par rapport à la masse des militants du parti. Bien. Ce congrès décide la dissolution des fractions, donc des groupes organisés. En conséquence de quoi, les centralistes démocratiques, comme l'opposition ouvrière, se dissolvent. Et ces militants, ces principaux militants, c'est-à-dire Safronov, Smirnov, Rafaïl, Ossinski, réapparaissent à nouveau, mais en ordre dispersé, lorsque se constitue l'opposition de gauche, avec la déclaration dite des 46, qui porte essentiellement sur la liquidation de la démocratie politique dans le parti. et qui non plus n'aborde pas la question des privilèges. D'ailleurs, dont Preobrajensky, je le répète, avait fait une question centrale en 1920. Ce qui est frappant, ce qui manifeste le fait qu'ils se sont bien dissous en fraction, c'est que c'est un texte, cette déclaration des 46, qui repose sur un texte central écrit par trois personnes, dont ce même Preobrajensky, et auquel s'associe un certain nombre de militants avec des déclarations qui sont d'ailleurs assez différentes les unes des autres. On s'aperçoit que les centralistes démocratiques portent sur, en s'associant à ce texte, portent des appréciations assez différentes. Par exemple, Safronov donne son accord à peu près total au texte rédigé, qui, je le répète, dénonce la liquidation de la liberté de discussion dans le parti et le remplacement de l'élection des responsables par la nomination par en haut. Alors que Smirnov, qui par exemple est beaucoup plus réservé, donc il est d'accord avec une partie du texte, mais pas avec la totalité. Peu importe les nuances, mais en tout cas, il ne se manifeste pas là qu'un groupe organisé. Il participe à l'activité de l'opposition de gauche, donc en commun avec Trotsky, Preobrajensky et quelques autres. Cette opposition, comme vous le savez, est écrasée la conférence de janvier 1924, dont les membres sont quasiment tous désignés par l'appareil après un trafic assez extraordinaire des votes, qui mène d'ailleurs le responsable dans la Pravda de la colonne des votes à dénoncer ce trafic et à se faire évidemment expulser. Après cette conférence, l'opposition de gauche se recule et pendant deux ans, il n'y a à peu près aucune manifestation organisée de l'opposition qui reprend en avril 1926. Les centralistes démocratiques font partie de l'opposition unifiée qui revient essentiellement sur la question qui leur paraît toujours centrale, c'est-à-dire la question de la liberté de discussion dans le parti et la mise en cause d'une politique qui apparaît aux opposants comme étant une politique favorable à la couche riche de la paysannerie, une politique qui ralentit considérablement l'industrialisation qui leur paraît nécessaire et la mise en cause, plus modérée d'ailleurs, de l'idée du socialisme dans un seul pays. Cette opposition, en octobre 1926, fait une déclaration dans laquelle se confrontait au mur de l'appareil qui envoie toutes les réunions où elle a des représentants qui prennent la parole des commandos, qui hurle, qui frappe, qui cogne. Elle fait une déclaration de recul, disant qu'elle cesse son activité pour le moment. Cette décision amène le groupe centraliste démocratique à rompre avec l'opposition unifiée et à constituer un groupement à part qui s'appelle la plateforme des 15, le groupe des 15, avec les deux principaux dirigeants, Safronov, Smirnov et quelques autres. Ce groupe des 15 s'oriente assez vite, et ils l'affirmeront dès 1927, un peu plus tard, après la reprise du combat de l'opposition à partir du développement de la révolution en Chine. L'opposition reprend son activité en avril 1927, et le groupe des centralistes démocratiques, à ce moment-là, se manifeste par une déclaration à part qui ouvre la voie à l'idée qui va devenir centrale chez elle en 28, à savoir que le parti communiste a complètement dégénéré, en conséquence de quoi il faut s'orienter vers la constitution d'un deuxième parti. Cette idée apparaît dès 27, de façon encore, disons, timide, et après la décision du 15e congrès en décembre 27 d'exclure tous les opposants, sauf ceux qui se relient, Kamenev et Zinoviev dès janvier 28, tous ceux qui ne se relient pas sont exclus et envoyés en exil. On peut dire qu'entre janvier et février 28, et mars 28, pardon, à peu près 6 000 opposants sont arrêté et envoyé en exil. À partir de ce moment-là, l'opposition devient totale entre l'opposition, les trotskistes et les centralistes démocratiques. Ces derniers, je le répète, et il faut insister là-dessus, affirment que le parti est totalement dégénéré, la petite bourgeoisie a pris le pouvoir, donc le parti est devenu le parti de la petite bourgeoisie, en conséquence de quoi il faut créer un deuxième parti. Cette position est très très claire, je vais dire brièvement ensuite ce que Trotsky répond à cette affirmation. Et en même temps, les décistes envoient une déclaration au présidium de l'Internationale communiste demandant l'annulation des décisions du 15e congrès et un nouveau congrès extraordinaire, ce qui peut paraître contradictoire avec l'idée qu'il faut créer un deuxième parti. Sakharov écrit voilà, un texte qui s'appelle « Agonie de la petite bourgeoisie », dans lequel il affirme premièrement que le régime soviétique est devenu un capitalisme d'État, et il affirme « Si nous n'avons pas de bourgeoisie, la bureaucratie se trouve au pouvoir. Elle dispose des moyens de production et l'ouvrier reste un esclave salarié. Le caractère de la production ne devient donc pas socialiste. Seuls les renégats du communisme peuvent assimiler l'économie du capitalisme d'État et le socialisme. » Il ajoute « Toute la politique du régime bureaucratique, la concentration des moyens de production de la ville et de la campagne dans ses mains, et son incapacité à organiser la production en étranglant la classe ouvrière, mène inéluctablement au transfert des moyens de production à la bourgeoisie nationale et internationale. » Et il qualifie le pouvoir de dictature petite bourgeoise parasitaire. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par petite bourgeoisie? C'est la paysannerie, les nets mêmes, puisque la net existe toujours, enfin, elle est en train de vivre ces derniers mois, c'est-à-dire ceux qui se livrent au commerce privé, les anciens spécialistes, ceux qu'on appelle les spécialistes, c'est-à-dire les directeurs, les ingénieurs, c'est-à-dire à peu près 90% de la population de l'Union soviétique. Alors, à cela, Trotsky répond que... Ah oui, pardon, excusez-moi, une chose encore. Pour justifier cette analyse, Sapronov a écrit « Thermidor est devenu une réalité et il est achevé ». C'est-à-dire qu'il assimile ce qui se passe en Union soviétique au Thermidor de 1995 et achevé, cela signifie donc que la classe ouvrière est totalement exclue du système politique et que cette nouvelle classe, cette nouvelle couche, enfin il hésite parfois entre couche et classe, enfin la petite bourgeoisie qui est au pouvoir, et donc il affirme qu'elle est au pouvoir de façon transitoire, préparant le passage du pouvoir à la bourgeoisie. Trotsky répond, lui, Trotsky et ses partisans, que Thermidor n'est pas achevé, que le régime soviétique exprime toujours, à la mesure où les moyens de production sont collectifs, exprime toujours sur ce plan-là caractère de domination du prolétariat exprimé par l'expropriation du capital en 17-18, que troisièmement le parti n'est pas dégénéré, qu'il existe toujours dans ce parti ce qu'il appelle un noyau prolétarien sain sur lequel il faut s'appuyer pour combattre la bureaucratie dirigeante. Enfin, il souligne que cette question est liée au développement de la révolution internationale et que l'opposition doit donc mener un combat à l'intérieur du Parti communiste soviétique et à l'intérieur de l'international pour renverser la direction et transformer le Parti communiste des divers pays. Comme dit le proverbe britannique bien connu, la preuve du pudding, c'est qu'on peut le manger. C'est même qu'on le mange, d'ailleurs, pas seulement qu'on peut le manger. Alors qu'est-ce que les... Je terminerai là-dessus. Qu'est-ce que les mois et les années qui suivent peuvent donner comme élément pour apprécier la différence de jugement entre ces deux ailes de l'opposition. Est-ce que les faits valident l'interprétation suivant laquelle Thermidor a été achevé et donc le Parti communiste de l'Union soviétique n'est plus qu'un organe de la petite bourgeoisie, préparant le passage pacifique à la bourgeoisie. Si on regarde ce qui se passe dans le Parti communiste de l'URSS à partir de ce moment-là. Premièrement, dans l'année 28, ce sont des faits signalés par Alexis Gouciev lui-même, qui est un grand partisan de la position prise par les centralistes démocratiques, se mène dans les rangs même du parti un combat dans de nombreuses cellules de base sur des questions qui sont, comment dire, très corporatives, en même temps politiques, sur le renouvellement des conventions collectives, sur la défense du salaire, l'amélioration du salaire, le combat contre l'augmentation des normes, toute une bataille dans laquelle des cellules entières s'associent à des mouvements de protestation, à des manifestations même, mouvement qui, disons, avortera l'année suivante en 29-30, mais qui, à l'époque, connaît un assez grand développement. Mais surtout, ce qui est le plus frappant, me semble-t-il, c'est le fait qu'à partir de 29, la bureaucratie dirigeante soumet ce parti à une série d'épurations de plus en plus brutales, de plus en plus massives. De 29 à 31, vous savez, 250 000 militants de ce parti sont chassés de ses rangs avec l'accusation d'être soit trotskistes, soit déviation de droite. Bien sûr, la majorité des 250 000 ne sont ni trotskistes, ni partisans de Boukharine. C'est impossible de faire le calcul exact de ceux qui méritent réellement qu'on leur applique cette étiquette sur le dos. Et ça signifie que ces 250 000 adhérents, en tout cas, ou la majorité d'entre eux, apparaissent à la direction comme incertains ou peu sûrs. Et qu'en conséquence, il vaut mieux s'en débarrasser. À partir de 31, la direction organise une purge annuelle par la mise en place d'un renouvellement des cartes du parti systématique au début de chaque année. Chaque année, vous avez en moyenne 15% d'exclus de ce parti. En 1933, vous avez près de 400 000 exclus pour la seule année 1933, soit 18% d'exclus. Cette opération est menée régulièrement jusqu'en 1938 avec à peu près un pourcentage similaire d'exclus. Alors, sans doute, dans ces exclus, on peut trouver un certain nombre d'ivrognes répétés, un certain nombre d'adhérents qui sont exclus parce qu'ils ont fait baptiser leur enfant. Mais ça, c'est quand même une petite minorité. La raison fondamentale, c'est la liquidation de tout ce qui, dans ce parti, peut représenter un noyau de résistance ou d'opposition. Et c'est ce qui mène à ce que l'historien conservateur britannique Conquest, avec lequel je suis assez rarement d'accord, moi, je suis d'accord avec lui, parce qu'il dit qu'en 1938, apparaît un nouveau parti, vraiment le parti stalinien, une fois épuré de tout le monde, et avec les anciens opposants liquidés, soit les centralistes démocratiques, soit les trotskistes liquidés massivement, y compris physiquement, soit fusillés après des jugements qui durent un quart d'heure, une conférence spéciale de l'NKVD, les jugements d'un quart d'heure et les envois de l'exécution, soit fusillés en masse lors des grèves de la faim de Magadan et de Vorkuta, où les centralistes démocratiques et les trotskistes prennent d'ailleurs part ensemble, les centralistes démocratiques étant très très minoritaires par rapport aux trotskistes. Très peu de centralistes démocratiques ont survécu. Deux ont survécu d'après mes recherches, qui peuvent être incomplètes d'ailleurs. L'un d'eux, c'est vraiment un miracle, Édouard Dune, parce qu'il a participé à la grève de la faim des trotskistes à Vorkuta. Il a duré 132 jours pour les alimenter de force, bien entendu. Pas mal sont morts, d'ailleurs, pendant cette grève. Et lui, il a fait la grève. Il y a deux survivants des déportés de là-bas. L'un qui a refusé de faire la grève en disant à trotskiste, en disant à ses copains qu'ils seraient tous fusillés, donc c'est absurde, ça ne sert à rien. Et lui, l'une qui l'a fait, et sans doute le NKVD a dû le laisser, ne pas faire attention à sa participation. Et il a écrit un petit texte qui, je pense, sera traduit dans le volume qu'Éric envisage de faire. ferme, qui s'appelle Édouard Dune, écrit un petit texte sur l'histoire des centralistes démocratiques. Bon, c'est un texte très court, dans lequel il dit qu'ils étaient à peu près 2000 adhérents en 1927-28, que la plupart d'entre eux avaient comme consigne de rester clandestins dans le parti. Il y avait l'idée que c'est un parti totalement dégénéré, donc on ne peut y être qu'en fraction, comme, je voulais, comme des militants qui étaient en fraction dans les syndicats franquistes, fraction clandestine, ou comme on est en fraction dans une organisation ennemie. Et qu'à partir de 1933, en réalité, leur activité a très vite dépéri quand leurs rares dirigeants publics ont été arrêtés, déportés, puis ensuite fusillés en 37 ou 38. Enfin, si on avait été fusillés en 37, et ça prend 9 ans, 38. Alors, l'intérêt de, je crois, de publier les textes de cette opposition que j'ai évidemment très brièvement résumé, c'est que ça représentait une, je ne veux pas dire une tentative réelle, mais sinon pas réellement pu se lancer dans la construction de ce second parti, mais l'expression d'un des débats qui s'est déroulé dans les rangs de l'opposition, avec donc deux positions très très différentes, la position des trotskistes jusqu'en 1934, qui changera en 1934, lorsque Trotsky proclamera la nécessité de s'orienter vers une nouvelle internationale, c'est-à-dire jusqu'en 1934, il faut s'appuyer sur le noyau ouvrier du parti pour combattre la direction et tenter de reprendre le pouvoir. Et eux, qui à partir de 1927-28 affirment que cette perspective est impossible, il faut se lancer dans la construction d'un nouveau parti. Alors, Smirnov lui dit non, c'est pas un second parti, je n'ai pas très bien compris d'ailleurs ce qu'il fait, c'est ni un second parti ni un premier parti, c'est un parti prolétarien. Donc, enfin peu importe d'ailleurs cette nuance, qui a fonction donc d'engager le combat pour renverser le gouvernement de la petite bourgeoisie. Et lorsque Smirnov est jugé en avril 37 par une conférence spéciale du NKVD, le flic du NKVD lui dit « Vous êtes accusé d'avoir voulu renverser le gouvernement soviétique. » Il répond « Pas du tout. Je me bats pour redonner le pouvoir, le pouvoir à un gouvernement soviétique. » Manifestement, le flic du NKVD a du mal à comprendre ce distinguo. De toute façon, au bout d'un quart d'heure, il est condamné à mort et fusillé, comme le sera, enfin, comme l'ont été tous les dirigeants du mouvement centraliste démocratique, sauf celui et un autre d'Achkovski qui, je crois, a capitulé et donc a pu survivre. Mais ça, c'est arrivé à tous les groupes.